ce programme, une initiative de Sousa Manifeste vous est proposée par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.
Depuis plus d'une dizaine d'années, des voix se font entendre pour exiger ce qu'elles considèrent comme une humanisation des rituels de veuvage. Ceux-ci, de plus en plus, sont jugés dégradants et violents à l'endroit des femmes. De nombreuses recherches anthropologiques conduites sur différents terrains au Cameroun révèlent parfois la cruauté des moments dans le veuvage. C'est le cas de Lakous, en pays Béti. Ici, pendant 26 jours, la veuve est enfermée dans une cave sous la vigilance de celui qu'on appelle le gardien des veuves. L'eau lui est interdite parce qu'une veuve n'est pas autorisée à se laver. Elle ne sort que pour des besoins de la plus grande urgence, notamment lorsqu'il faut effectuer des paiements ou dons divers aux sœurs de son défunt mari. Elle n'est pas autorisée non plus à dormir dans un lit, mais nue, à même le sol. Il arrive que soumise à de telles conditions de vie, certaines tombent durablement malades ou meurent. Réagissant en octobre 1999 dans les colonnes de femmes en Suisse, l'organe officiel d'information de l'Alliance de sociétés féminines suisses, la Camerounaise Madeleine Tikikoum déplorait.
Les cérémonies du veuvage chez nous mettent en relief la méchanceté des femmes et leur manque de solidarité envers celle qui a perdu son mari.
Du point de vue de l'eschatologie locale, puisque la mort est rarement naturelle, les rituels de veuvage sont parfois conçus comme un outil visant à juger la culpabilité ou l'attachement du conjoint envers le défunt. Ce qui est aussi un dévoiement de la fonction sociale du rite de veuvage, qui est de rappeler au conjoint éploré, à travers un régime de privation, de frustration et de restriction, la douleur de la perte et les bouleversements de sa vie du fait de cette perte. En 2020, la reine du canton Bell, Clarisse Bell, lors d'une cérémonie publique s'adressant au roi Bell, fit ainsi le plaidoyer pour un assouplissement des rituels de veuvage jugés trop sévères.
Majesté, je suis pour les rites aux veuves, je suis pour la tradition. Je vous demanderai, avec humilité, devant témoin, de ne pas éradiquer les rites faits aux veuves, mais de les assouplir, de les humaniser. Vous pouvez charger vos notables de prendre des textes dans ce sens. En tant que reine, je reçois les veuves tous les jours. Elles se confient à moi, partageant leurs peines. Les veuves sont des personnes vulnérables.
Pays Bancon aussi, le moment du veuvage est un moment de vulnérabilité et de sévice. À Grand Souza, village situé à une trentaine de kilomètres de la métropole économique Douala, en bordure de la nationale numéro 5, les témoignages foisonnent sur la dureté de la condition de veuve. Être veuve à Grand Souza, c'est aussi subir le martyre des autres femmes, celles de sa belle famille. À la douleur de perdre un époux, s'ajoutent des contraintes de rituels vécus de façon oppressive par les concernés. En effet, à l'annonce du deuil, la veuve entre en réclusion dans sa maison, en compagnie d'une partie de ses belles-sœurs, chargée de veiller sur elle et de filtrer les entrées dans ses appartements. Cet enfermement est précédé d'une étape tout aussi cruciale. Madame veuve Nanga raconte ce qu'il en est. Elle est traduite ici par sa fille.
Chez nous, dans la contrée Abo, si une femme reste veuve, les filles de la famille de son mari lui réclament de l'argent, des centaines de mille, parfois même des millions. Elles réclament la nourriture dont en nature. Elles peuvent dire, donne-nous une cuvette d'igname, donne-nous 10 régimes de plantain, par exemple, donne-nous le gros poisson là, qu'on découpe en petits morceaux, non, on dit ça que titi, quac, quac, donne-nous ça. Et tu donnes le vin rouge, tu donnes la bière, tu donnes le whisky. On te rase, tu dois payer celle-là qui te rase. Si elle t'a déjà rasé, c'est avec elle que tu restes dans ta chambre. Personne d'autre n'entre, sauf si la personne paye. Il y a une assiette devant la porte. Tu jettes l'argent là-bas et puis tu vas causer avec la veuve.
Cette pratique met en furie certains riverains qui y voient un moyen d'enfoncer une veuve déjà éplorée et inconsolable. Pour M. Manga, qui fait office de substitut du chef de Grand Souza, cette liste de choses exigées par les belles-sœurs confine même à un retour de dot tant les exigences sont parfois indécentes au vu de la situation sociale de la veuve. Il se souvient avec amertume du cas de sa propre mère.
Mon papa est mort, j'avais 6 ans. Mais ce que j'ai vu, ce que les sœurs de mon papa ont fait à ma mère, ça ne pouvait pas se passer aujourd'hui. Parce que le rite de veuvage chez nous, c'est comme si la veuve devrait rembourser la dot. C'est comme si la veuve devrait rembourser la dot. Je suis clair là-dessus. Parce que les sœurs du défunt vous demandent l'argent en espèces. Elles vous demandent la nourriture. Vous connaissez les bassines à l'huile là, non? Où on fait la lessive. On vous demande à la veuve de remplir cette bassine avec l'arachide grillé. Cette arachide-là, ce n'est pas un sac, c'est beaucoup. Ma mère a subi tout ça.
Les exactions dénoncées ici constituent clairement, au regard de la tradition, un dévoiement de la pratique du veuvage où la violence prend le pas sur le symbole. Le théologien et philosophe Kamana, dans un texte intitulé « Herméneutique des rites de veuvage, la force du symbole », observe que les nombreuses privations et restrictions imposées à la veuve visaient initialement à rappeler à la survivante le changement survenu dans sa vie à travers un ensemble de cercles de signification. L'un de ces cercles introduit dans la rencontre brutale avec la réalité de l'événement. L'épouse éplorée doit trouver à travers cette épreuve des ressources pour vaincre sa douleur et son désespoir. C'est la raison pour laquelle ce moment est organisé comme un espace d'austérité, de silence et de méditation. En pays Bangkon, recluse dans ses appartements et couchée sur un matelas, posée sur des feuilles de bananier séchées qui visent avec d'autres artifices à la protéger d'esprits chagrins qui seraient source de malédiction, la veuve reçoit les visites au compte-gouttes, le crâne déjà rasé, signe de son dénuement, expression de la perte qui l'affecte. C'est aussi la période de tractation avec ses belles-sœurs pour pourvoir à leurs demandes, fussent-elles exorbitantes. Elle a alors en ligne de mire le 9e jour, moment important, parce qu'il consacre la fin d'un régime d'austérité pour la veuve et d'une certaine manière des brimades. C'est aussi le moment des rituels de purification. Mais déjà, se profile dans l'immédiat, le 5e jour. Véritable moment d'échange cérémoniel, le 5e jour constitue un cas classique de l'économie du don dans les transactions communautaires en temps de deuil. C'est un jour de donation où la veuve nourrit le village accouru à sa rencontre pour lui présenter ses condoléances. Obligation pour la communauté de témoigner sa compassion vis-à-vis de la veuve. Obligation pour celle-ci, non seulement de la recevoir, mais aussi d'y répondre en offrant un repas de circonstance. Ici aussi, les conditions sont draconiennes, comme le rappelle M. Manga.
On ne va pas vous appeler le service traiteur. Hein? Jamais. Une veuve doit préparer la nourriture typiquement de notre région.
Le même renchérit en guise de précision.
Les aliments cérémoniaux, il y a le haricot qu'absolument la veuve doit préparer et piler. Elle prend donc une bouteille, elle met au milieu. Quand elle a déjà fini de piler, elle sort donc cette bouteille. Quand elle sort la bouteille, elle met un litre d'huile d'arachide. Deux ou trois litres, puisque ce n'est pas un plat, hein? C'est une grande marmite. Quand elle a donc mis ça comme ça, là, au moins trois litres, elle est là, comme une reine. Tout le monde est tout autour d'elle. Après, tout ce qu'elle donne, allez.
En ce 5e jour, la cérémonie s'appelle l'Onsase. Madame Ekolo de Grand Souza en explique la scénographie. Extrait.
Tu prépares le son, c'est-à-dire le coquet, le gâteau avec la banane. Vous préparez ça vers les 19h, 20h, vous faites sortir ça. Parce que comme les gens connaissent qu'il y a la nouvelle là, de 4 jours, il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous sortez alors ça. Vous mettez ça quand je suis ici, comme ça, on peut mettre le gâteau avec les bananes ou avec le manioc, comme ça. On installe ça là-bas. Et on gonne, s'élève, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe. Elle part là-bas, elle coupe, elle coupe, elle part là-bas, elle coupe. Après, elle-même prend un peu de coquille, un peu le manioc ou la banane. Elle mange. Et puis, elle dit que médiaco, c'est-à-dire manger. Tout le monde commence à manger.
Elle ajoute que ce menu se complète de vin de palme, d'une liqueur traditionnelle dénommée arki et de la bière si les moyens le permettent. La phase d'une sasse est passée. La veuve se prépare pour la cérémonie de la rivière. Une cérémonie de purification qui intervient au 9e jour après l'enterrement. Cette cérémonie vise à laver la veuve et au-delà de sa personne, toute la concession d'éventuelles malédictions. Rite de purification donc, d'où le concours de la rivière qui lave et qui draine, mais aussi rite de conjuration du mauvais sort. Elle le fait en compagnie de sa belle-sœur, chargée de jouer les prêtresses de cérémonie. Cette dernière veille à ce que sa robe bleue soit prête, car c'est celle-ci qui lui conférera désormais la qualité de veuve auprès des riverains. Cette robe s'accompagne de foulards et de chaussures de même couleur au besoin. Dans la nuit du 8e au 9e jour, tout s'accélère. Il faut apprêter les mets et les outils nécessaires à la grand-messe du lendemain. Le jour J, le rituel commence aux aurores. La veuve est entraînée à la source du village en compagnie de ses belles-sœurs. Une fois sur place et la mise en place achevée, les incantations en direction des aïeux commencent. Madame Charlonjo, veuve, rapporte une partie de celle-ci.
Bayondila, ibotoni len, ba papa, ba mama, ninlungwong, bayila sa fe tundusuwe iliu, inyu la, alabasumuwe, mawawa inyu, inyu la so, bon la, mawong ni bon bon, babenyali nila minyumi bebo sa, babenyali nila bayile imbuilam, ube la bakon, tubu tubu, to ube la jamdisabo. Inyo la so, sa fe tundu nkusamon, boto la tala. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les papas qui sont morts depuis et le mari de la femme, qu'ils sachent que nous sommes venus laver la veuve de tel aujourd'hui. Donc il faut que le mari reste éveillé là où il est pour ses enfants, pour sa femme, pour que les maladies, les mauvaises choses et consorts ne les arrivent pas.
Le repas de la veille est distribué en amont de la rivière. Après cette adresse aux ancêtres, un rite essentiel suit, celui de la purification. La veuve est plongée 9 fois de suite dans l'eau marigot, puis son corps est frotté pendant que l'assemblée chante. Puis la veuve est habillée de bleu. La prêtresse lui met à la ceinture une corde composée de 9 nœuds. Est ici à partir de l'écorce du bananier. C'est un symbole de chasteté. La dernière phase de la cérémonie de la rivière consiste pour la veuve à jeter une nasse dans l'eau pour deviner son avenir. Si le fruit qui en sort est une crevette, cela augure de quelque chose de bon. Tout autre fruit, pris au piège de la nasse, constitue un motif d'inquiétude. À ce stade, on reprend le rituel. Jusqu'à ce qu'il soit de bon augure et indique la possibilité pour la veuve de convoler de nouveau en juste noces. On a ici un autre cercle de signification des rites de veuvage. C'est la continuité de la vie et la neutralisation de la mort par la réactivation de la possibilité pour la veuve de sa réinsertion dans un temps anthropologique fait d'alliances diverses. La veuve redevient par cette cérémonie, une femme à marier. De retour à la maison, sous les champs, suit une collation collective avec les riverains, puis le rituel du feu. Madame Jo s'en souvient.
On fait le feu. Elle passe sur le feu 9 fois. Quand elle passe sur le feu, alors on jette le poisson là dedans. Ce qu'elle a ramené de l'eau, on met ça dedans et puis elle passe dessus 9 fois. Habillée avec la robe bleue qu'elle a amenée de l'eau devant sa belle famille.
À la suite de ce rituel, la veuve va entamer sa période de viduité qui peut durer jusqu'à 1 an. Pendant les 3 premiers mois, elle vit recluse, ne sortant que pour des occasions spéciales. Le temps de la réclusion est aussi le temps du recueillement, où la veuve est tenue à l'écart de la vie communautaire de routine. À la fin de cette période, elle se rend au marché. C'est le retour à la vie communautaire, à la routine. Ce moment signe sa réinsertion dans la vie villageoise, quoique marquée encore de son principal attribut de veuve, sa robe bleue qui constitue le critère apparent de sa condition. Monsieur Manga explique.
Quand elle fait 3 mois dans la chambre, le jour qu'elle sort, c'est pour aller au marché. On la mène au marché. Elle va faire le marché. Elle revient, elle prépare. Et le dimanche, on l'amène à l'église.
Pour ce qui est de la chasteté, elle est rompue à la suite d'un rituel que l'on appelle ici « couper la corde ». Cela consiste pour le prétendant à la veuve de payer la somme exigée par la prêtresse lors de la cérémonie de la rivière, somme qui lui sera reversée entièrement, comme l'exige la coutume. C'est à ce moment-là que le vœu de chasteté est rompu aux yeux de sa belle-famille, ce qui confère à la veuve la licence de convoler, à nouveau, en juste noces, si elle le souhaite. Si ces rituels successifs font aujourd'hui l'objet de controverses, c'est en raison de leur dévoiement, comme s'ils ne suivaient plus les 4 phases essentielles qui font leur raison d'être. Isolement, purification, réintégration et libération, mais étaient plutôt des occasions de maltraitance et d'une pénitence sans cette contemplation que requiert justement le deuil. Le deuil comme méditation sur la vie et son au-delà.
Ce programme, une initiative de Souza Manifeste, vous est proposée par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.